Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Marc Bolloridon, Nicolas Sendé, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Premier temps donc d'une semaine consacrée à la gouvernance mondiale. Nous parlerons cette semaine de l'OMC en pleine dérive à tel point qu'elle n'a même plus de directeur. On évoquera la question de la biodiversité. Il sera également question de l'Internet en pleine fragmentation alors que ses inventeurs avaient de grands rêves d'universalité. Mais pour commencer, penchons-nous sur la 75e Assemblée Générale des Nations Unies qui vient de s'ouvrir sur fond de pandémie.
La pandémie de Covid-19 est une tragédie qui vient nous rappeler à quel point nous sommes unis les uns aux autres. Le virus ne connaît pas de frontières et nous lance un défi planétaire. Pour le combattre, il nous faut œuvrer ensemble comme une même famille humaine. Nous devons faire face au plus grand défi qui soit depuis la Seconde Guerre mondiale. Avant de subir cette épreuve, le monde était déjà gravement menacé par d'autres périls transnationaux, notamment le changement climatique. Le multilatéralisme n'est pas seulement un moyen d'affronter des périls communs. L'occasion nous est offerte de reconstruire sur de meilleures bases en bâtissant des économies et des sociétés plus inclusives et durables. En ce moment charnière pour la coopération internationale, et alors que cette année est celle du 75e anniversaire de l'ONU, efforçons-nous de construire pour toutes et tous un avenir sain, équitable, pacifique et plus durable.
Reconstruire les économies, combattre les inégalités, le racisme, promouvoir l'égalité des sexes sans oublier le climat. Voilà en quelques mots l'objectif affiché par le secrétaire général Antonio Guterres à l'ouverture de la 75e Assemblée Générale des Nations Unies, alors que celle-ci se déroule essentiellement à distance. L'Assemblée Générale des Nations Unies, l'un des principaux organes créés par la Charte de l'ONU d'octobre 1945, son fonctionnement réside dans le principe du un État, une voix, bref, le principe démocratique par excellence. Sauf que ces voix, précisément, ne s'exprimeront pas directement depuis le siège de l'organisation à New York, mais seront éparpillées un peu partout pour cause de Covid. Les dirigeants ayant été invités à soumettre des messages préenregistrés qui seront diffusés dans la salle. C'est donc un exercice de démocratie mondiale à distance. Une réunion virtuelle de l'Assemblée Générale des Nations Unies ne risque-t-il pas de complètement la vider de sa substance ? Le principal intérêt de ce rendez-vous n'est-il pas précisément de monter à la tribune, de permettre à nos dirigeants, nos diplomates de se rencontrer physiquement à l'intérieur de l'enceinte, mais aussi de façon plus informelle dans ses marges? Que pèseront les petits États pour qui il s'agit évidemment d'un porte-voix unique pour s'adresser au monde? Et que nous dit l'histoire sur l'importance de cette grande messe annuelle du multilatéralisme? Pour évoquer toutes ces questions, on a invité ce matin évidemment un historien, Pierre Grosser, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes un spécialiste des relations internationales et membre du Centre d'histoire de Sciences Po, auteur de très nombreux ouvrages. Je citerai par exemple « L'histoire du monde se fait en Asie » qui était l'un des plus récents chez Odile Jacob. Guillaume Devin, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin, Guillaume Devin. Vous êtes professeur d'université en sciences politiques à Sciences Po Paris, et puis chercheur aux séries, et vous avez dirigé cet ouvrage qu'on a tous les trois en face de nous, Guillaume Devin, l'Assemblée Générale des Nations Unies, là où le monde se parle depuis 75 ans, qui est paru aux presses du Sciences Po. Je vais commencer avec vous, justement, Guillaume Devin, vous entendez ce que je disais là tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire une Assemblée Générale des Nations Unies à distance, cette fois pour cause de Covid. On critique très souvent l'ONU, et en particulier, ou en tout cas aussi l'Assemblée Générale des Nations Unies, mais on dit souvent que bon, elle a quand même d'abord l'avantage d'exister, et puis surtout elle permet à tout le monde de se retrouver. On se parle à la tribune, on se parle dans les couloirs, là on ne pourra même pas se parler. Alors à quoi bon finalement quoi sert finalement cette Assemblée Générale des Nations Unies, cette fois, cette 75e édition, elle sert à quoi?
Il y a deux questions dans votre question. La première question, c'est que à l'Assemblée Générale des Nations Unies, on a continué à travailler depuis le mois d'avril. L'Assemblée Générale a d'ailleurs produit la première résolution appelant à la solidarité internationale pour lutter contre le coronavirus, alors qu'il a fallu attendre le 1er juillet pour le Conseil de sécurité. L'Assemblée Générale a adopté environ une quarantaine de résolutions entre le mois d'avril et aujourd'hui. Donc, on a continué à travailler à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Votre deuxième question, qui est la question la plus importante, parce que au-delà des modes de contact on continue à travailler, c'est à quoi sert l'Assemblée générale des Nations unies. Alors là, je dirais, c'est une question qui est compliquée, à laquelle on peut répondre de deux façons. D'une part, quelles sont les fonctions de l'Assemblée générale, et d'autre part, comment les acteurs s'en servent-ils? Alors, sur le premier point, les fonctions, très rapidement, pour dresser le cadre pour nos auditeurs, l'Assemblée générale, c'est d'abord le centre nerveux des institutions onusiennes. C'est là que sont élus les membres non permanents du Conseil de sécurité, les membres du Conseil économique et social, les membres du Conseil des droits de l'homme. C'est là où l'on fabrique des programmes et des fonds, le programme des Nations Unies pour l'environnement, par exemple, que tout le monde connaît. Deuxièmement, c'est un lieu de production normative. C'est là où on prépare un bon nombre de traités internationaux, les pactes civils sur les droits civils, économiques et sociaux de 1966, le droit de la mer, récemment le très contesté traité sur l'interdiction des armes nucléaires, ont été fabriqués dans les Nations Unies.
Et à l'Assemblée générale en particulier ?
À l'Assemblée générale, je parle des fonctions de l'Assemblée générale. Troisième fonction importante, c'est une autorité en matière de paix et de sécurité. Tout simplement parce que l'Assemblée générale finance les Nations unies. C'est elle qui vote le budget. Et c'est donc elle qui finance les opérations de paix des Nations unies. Et enfin, troisième fonction, c'est une tribune de promotion de cause, de la décolonisation, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à l'environnement ou au pacte mondial sur les migrations. C'est à l'Assemblée générale qu'on... Voilà, j'ai répondu à la première partie de la question. L'autre partie qui est très importante, c'est comment est-ce que les acteurs, c'est-à-dire les États membres, se servent de l'Assemblée générale. Et là, on rentre dans une histoire politique plus compliquée.
Et on va la garder de côté, parce que de toute façon, on a quand même un peu de temps pour évoquer tous ces sujets-là. Pierre Grossière, d'abord sur l'actualité que j'évoquais, c'est-à-dire le fait que cette année, pour la première fois, on va avoir des chefs d'État et de gouvernement qui ne seront pas là physiquement. Qui seront les gagnants et les perdants de cette diplomatie à distance ?
C'est difficile de dire parce que les différents discours vont être répercutés. S'il y en a qui sont importants, ils vont être disséqués. Le discours iranien, le discours américain, le discours chinois, le discours français, tout ça va être disséqué comme il l'était auparavant. Ce qu'on perd un peu, c'est effectivement les contacts humains. Alors, ça a été rappelé il y a un instant, et c'est évidemment très important, qu'il y a des représentations permanentes, inégales en nombre, ce qui est d'ailleurs très important, parce qu'évidemment, les Français, les Russes ont plus de monde, ou les Chinois ont beaucoup plus de monde que des tout petits États, mais c'est des gens qui travaillent en permanence, qui sont à New York. Bon. Mais c'est vrai que la grande messe des Nations Unies en septembre fait que les chefs d'État viennent et se rencontrent en bilatéral et qu'il y a des discussions et parfois des affaires qui se règlent. On se souvient l'année dernière, par exemple, toute la question autour de l'Iran où le président français avait essayé de jouer les go-between, comme on dit en bon français, entre les États-Unis et l'Iran.
On avait même pensé à un moment que Trump allait peut-être rencontrer le président iranien. Donc, ça s'était pas fait, mais en tout cas, c'est effectivement dans ces marges que tout ça se joue.
Voilà, dans ces marges. Donc il y a toute une diplomatie où tout le monde est là. Enfin, pas tout le monde. Après, les chefs d'État viennent pas toujours. Ça dépend de leur agenda. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais donc là, on perd une partie de ces contacts. Alors évidemment, il existe aujourd'hui des contacts bilatéraux par vidéo. Enfin, je veux dire, on arrive à se parler. Mais déjà qu'il y a beaucoup moins de visites d'État, de rencontres internationales. On sait par exemple qu'il n'y aura pas de G7 cette année. Il devait avoir lieu aux États-Unis. On sait que c'est compliqué en période électorale de faire ça juste au moment de l'élection. Le G20, on ne sait toujours pas comment ça va se passer, qui doit avoir lieu en Arabie Saoudite. Donc là, on perd quand même quelque chose, qui est les discussions directes entre chefs d'État et la diplomatie. C'est aussi cela.
Guillaume Devin, dans l'introduction de votre livre, vous rappelez que des 5 organes principaux créés par la Charte des Nations Unies d'octobre 1945, l'Assemblée Générale est le seul organe à composition quasi universelle, 193 États représentés, fonctionnant selon une règle procédurale démocratique, c'est-à-dire un État, une voix. Et pourtant, vous dites que cette Assemblée Générale elle a une réputation d'insignifiance qui lui colle à la peau. Qu'est-ce qui lui vaut cette mauvaise réputation, alors même que c'est probablement l'entité multilatérale la plus démocratique qui soit?
Eh bien, justement, ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 60 ou dans les années 50, les plus jeunes l'auront oublié, mais une résolution de l'Assemblée Générale pouvait faire les gros titres d'un journal, pouvait faire les gros titres d'un quotidien du soir même, si vous voyez à quel quotidien je pense.
Et aujourd'hui, je vois pas, vous pouvez me dire.
Oui. Et aujourd'hui, on voit mal qu'une résolution de l'Assemblée Générale fasse les gros titres d'un journal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, dans un premier temps, l'Assemblée Générale a été considérée comme une enceinte tout à fait flamboyante et décisive dans la coopération internationale. Et ceci parce que les États-Unis y avaient mis tout leur poids. Je voudrais citer ici tout de même, parce que c'est intéressant, cette formule du secrétaire d'État des États-Unis, John Foster Dulles, qui déclarait en 1955 « L'influence qu'exerce le jugement moral des nations représentées ici, à l'Assemblée générale, confère à l'Assemblée un pouvoir réel. Aucun pays ne s'expose à la légère à sa condamnation avec tout ce que cela implique. » 20 ans après, les États-Unis considéraient que l'enceinte de l'Assemblée générale était devenue un endroit dangereux, je cite. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu la majorité dans cette Assemblée, avec l'arrivée de tous les pays décolonisés. Ils ont perdu la majorité à l'Assemblée générale, et donc les États-Unis ainsi que les grandes puissances, et en particulier les États membres permanents du Conseil de sécurité, se sont repliés sur le Conseil de sécurité et ont marginalisé ou tenté de marginaliser l'Assemblée générale. Alors, ça, c'est un premier point important. Ouais.
Pierre Grosser, je vais vous faire réagir sur la question de la morale, mais d'abord, je vais vous proposer d'écouter une archive. On en reparle juste après. Je vous dis pas qui c'est, je pense que vous allez évidemment tous deviner.
Basta ya de abstracciones. Hacen falta acciones concretas. Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende.
Voilà, vous avez reconnu évidemment Fidel Castro qui en 1979 provoquait une standing ovation dans l'enceinte onusienne après un long plaidoyer pour les droits humains, pour la lutte contre l'insécurité, la pauvreté, contre les armes. Il y avait quelque chose d'extrêmement théâtral, Pierre Grosser, dans cette intervention-là. On vocifère, on tape sur le pupitre, on provoque des applaudissements, on provoque des rires, peut-être même des larmes. Mais en tout cas, c'est une arène où on ressent énormément d'émotions. Tout à l'heure, Guillaume Devin disait ça, il y a quelque chose dans l'Assemblée générale de l'ordre de la morale. Qui fait sa force. Mais est-ce que finalement, et je vous laisserai réagir sur ce que vous avez entendu sur Fidel Castro, mais c'est pas aussi ce qui fait sa faiblesse. C'est-à-dire que d'une certaine manière, en géopolitique, il n'y a pas de place pour faire de la morale, en tout cas si on veut régler les problèmes.
Alors, l'expression « morale » par John Foster Dulles est en fait plutôt un héritage wilsonien. C'est-à-dire que les États-Unis, dans leur internationalisme libéral traditionnel, estiment que l'ensemble des peuples crée une forme de morale qui pèse sur les choix des dirigeants. Et ça, c'est une tradition qui a un peu disparu, cette impression qu'il y avait, j'allais dire, une morale universelle, humaine, qui pèse sur les choix des dirigeants. Et donc, cet internationalisme libéral, alors on le retrouve un peu dans les années 90, notamment au moment où vous avez des espèces de grandes messes organisé par les Nations Unies, mais pas aux Nations Unies sur des grands sujets. C'est Rio 1992, c'est Vienne pour les droits de l'homme, etc., etc. Mais après, la question de la morale telle que vous l'avez soulevée à la fin, c'est la question de la morale par rapport à la politique extérieure et donc de la fameuse géopolitique. Il faut bien voir que, par exemple, le cas de Fidel Castro est assez particulier puisque, par exemple, en 1960, sa première venue aux États-Unis, donc il prend le pouvoir en 1950, 1959. Il fait exprès d'aller à Harlem dans un hôtel où il reçoit Khrouchtchev. Bon, ça a évidemment...
La police de New York barre toutes les routes, il ne faut absolument pas qu'on puisse voir Fidel Castro, etc. etc.
Et en même temps, ça montrait bien quel était le choix. Et là, c'était pas une question de morale, c'était vraiment de choix idéologiques qui était vraiment important de voir. Ce qu'a soulevé Guillaume Devin tout à l'heure est fondamental, c'est-à-dire que les Américains, il ne faut pas imaginer qu'ils ont totalement embrassé l'aspect démocratique des Nations Unies et les Nations Unies dès le départ. Dans les années 50, il y avait déjà beaucoup d'interrogations, donc à l'époque de John Foster Dulles, sur la possibilité finalement qu'il y ait des règles qui s'appliquent aux États-Unis, qui ne soient pas, qui soient au-dessus de la Constitution américaine. Alors pour les Américains, la Constitution américaine, c'est le nec plus ultra. Bon, donc ces débats-là existaient déjà dans les années 50. Et ce qui a en fait le plus traumatisé les Américains, c'est dans les années 70, notamment en 1975, quand il y a eu la résolution de l'Assemblée générale qui a assimilé le sionisme au racisme. Et ça a été, à mon avis, la rupture majeure des États-Unis. Et depuis, alors juste après, d'ailleurs, ils ont quitté certaines enceintes, à l'UNESCO, puis ils sont revenus après, ils sont repartis maintenant, etc. Mais ça a été le moment où ils ont eu l'impression que, justement, on avait l'immoralité. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des régimes non démocratiques. Et depuis les années 2000, il y a une vraie interrogation qui est en train de revenir, d'ailleurs, aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas une autre forme d'enceinte avec que des pays démocratiques ? Parce que eux ont la vraie morale.
On va y revenir. Mais Guillaume Devin, c'est vrai que on n'est plus du tout dans cette époque-là. Les années 50, 60, même 70, en tout cas 50-60, c'est vrai que c'était une tribune parfaite pour venir défendre les peuples qui se battaient, rappelons-le, pour leur indépendance. À partir de quand il vous semble que cette Assemblée générale des Nations Unies a un peu perdu de son caractère flamboyant, justement?
Non, elle n'a pas perdu de son caractère flamboyant. Il y a eu un déplacement du centre de gravité politique. Les grandes puissances se sont aperçues qu'elles ne pouvaient plus avoir la main et faire le jeu à l'Assemblée Générale. C'était les pays du Sud qui étaient devenus majoritaires. Aujourd'hui, le G77, ce qu'on appelle le G77, c'est le groupe des pays qu'on appelait autrefois du tiers-monde, aujourd'hui en développement, ou les pays du Sud, si vous voulez, c'est plus de 2/3 de l'Assemblée Générale. Ils ont une majorité automatique, pratiquement. Donc, les grandes puissances se sont déplacées vers le Conseil de sécurité, où là, elles avaient leur précaré, si je puis dire. Et c'est pas simplement vrai des États-Unis. C'est vrai de la Chine, c'est vrai de la Russie, aujourd'hui, c'est vrai des pays occidentaux, le Royaume-Uni et la France, hein, qui attachent beaucoup d'importance au Conseil de sécurité et qui renvoient souvent à l'Assemblée générale cette image de marginalisation pour éviter de ne réformer le Conseil de sécurité. Donc, c'est très important. L'autre élément qui est très important, c'est que de par la Charte des Nations Unies, l'Assemblée générale a un pouvoir normatif non contraignant. Seul le Conseil de sécurité peut prendre des décisions que tous les membres des Nations Unies se sont engagés à exécuter. C'est pas le cas des résolutions de l'Assemblée Générale. Donc, on a des résolutions un peu omnibus, hein, qui parlent un peu de tout, qui rappellent des grands principes, mais qui sont assez molles, et qui servent au mieux de guidelines, comme on dit, de codes de conduite, plus que véritablement de prescriptions à force obligatoire. Donc ça, évidemment, c'est une faiblesse d'origine, hein, de l'Assemblée générale. Et si elle n'est pas investie d'une force politique, bah, et finalement, elle se trouve désarmée aussi juridiquement.
Pierre Grosser, j'ai vu que vous vouliez réagir peut-être sur cette question de la résolution, et puis je voudrais revenir sur la question du débat au sein de l'Assemblée générale. Je vous en prie.
Non, c'était juste pour faire un petit rappel historique. C'est que les Nations Unies ne sont pas exactement le successeur de la SDN, et que les idées américaines, notamment du président Roosevelt, c'était pas un organisme démocratique avec tous les États à égalité. C'était pas ça son obsession. Son obsession, c'était la paix. Donc, les Nations Unies, c'était pour la paix. La manière de résoudre les questions de paix, étant donné les souvenirs des années 30, c'était quoi ? C'était des gendarmes. Au départ, 4, puis 5, parce que la France a pris la place que d'ailleurs était au départ dévolue au Brésil, mais enfin, ça, on le rappelle pas toujours. Donc, les 5 qui, donc, quand il y a un État qui agresse un autre, vont intervenir militairement, et donc ils peuvent même avoir des bases un peu partout dans le monde parce que ce sont les grandes puissances, et c'est seulement après qu'on a dit il faut une assemblée générale, etc., etc. D'ailleurs, dont le problème était de savoir qui pourrait être à l'intérieur, parce qu'il y a eu des débats sans nom aussi, pour savoir qui avait le droit d'être dans l'Assemblée générale. Par exemple, un pays comme l'Argentine, qui avait eu quelques faiblesses pour l'Allemagne nazie, est-ce qu'elle peut rentrer? C'était le cas du Japon après.
Alors, c'était pas dit, ce sera n'importe quel pays.
Ah, non,
tous
non,
les
non,
pays
non.
indépendants.
Non, non. L'automaticité, c'est à partir de 1955. La quasi-automaticité.
L'universalisation a été un processus assez lent, qui a pris une bonne dizaine d'années.
Voilà, c'était assez compliqué. Et donc, l'Assemblée générale, au départ, était déjà quelque chose d'assez marginal. Pourquoi elle a pris de l'importance, effectivement, dans les années 70? Bien entendu, parce qu'il y avait cet enjeu de la décolonisation absolument fondamentale, et aussi parce que le Conseil de sécurité était bloqué à cause de la rivalité entre Américains et Soviétiques. La guerre froide, ce qu'on appelle. Et donc, le Conseil de sécurité a pu reprendre du poids à partir de 1990-91, notamment au moment de la guerre du Golfe, puisque pour la première fois, j'allais dire, la charte des Nations Unies fonctionnait vraiment, un État avait agressé un autre, et donc collectivement, sans veto, eh bien, on pouvait renverser la situation qui avait été faite à ce moment-là. Et dans les années 90, il y a eu très peu de veto. Et donc c'était, j'allais dire, assez naturel que le Conseil de sécurité reprenne du poids. Et l'interrogation qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est reparti à la hausse dans les vétos, hein. Pas tellement la France-Angleterre, parce qu'il n'y a plus vraiment de problèmes coloniaux. Pourquoi la France-Angleterre mettait des vétos? C'était essentiellement sur les problèmes coloniaux. Aujourd'hui, là, les États-Unis, la Russie, la Chine. La Chine va dépasser la France en nombre de vétos, sans doute, l'année prochaine. On peut imaginer. Donc, là, de nouveau, le Conseil de sécurité semble coincé. La grande interrogation, hein, et c'est pour ça que ce livre arrive à temps, me semble-t-il, c'est est-ce qu'il va y avoir un basculement de nouveau vers l'Assemblée générale?
Alors, on va voir justement ce qu'on peut imaginer comme évolution dans les modes d'organisation. Mais sur la question du débat, Guillaume Devin, à l'époque, le général de Gaulle disait de l'Assemblée générale des Nations Unies qu'elles étaient des séances, je cite, « tumultueuses et scandaleuses où il n'y a pas moyen d'organiser un débat objectif ». Alors, certes, il y avait des personnalités qui exposaient leurs points de vue et ces points de vue ne concordaient pas, pour le moins qu'on puisse dire. Mais c'est vrai que la question de la confrontation des idées ne semble pas vraiment se faire dans cette enceinte-là. Est-ce que je me trompe ou est-ce que peut-être précisément le débat se fait ailleurs qu'à la tribune des Nations Unies?
Oui, je pense que vous vous trompez. Je pense que vous vous trompez parce que, un peu à l'image de cette émission, on parle de l'Assemblée Générale des Nations Unies le troisième mardi de septembre chaque année. Et après, on n'en parle plus. Et donc, d'ailleurs, je suis assez régulièrement invité au même moment, dans les mêmes radios, pour parler de la même chose. Mais le problème, c'est que quand même, l'Assemblée Générale travaille. Elle travaille notamment à travers 6 commissions qui produisent toutes les choses dont j'ai parlé en introduction de cette émission, et dans ces commissions où sont représentées la totalité des États membres, on discute beaucoup, on négocie, quelquefois on s'empoigne, quelquefois on passe à des votes avec des majorités automatiques dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire souvent les pays du Sud qui prennent l'avantage sur les pays du Nord. C'est aussi une façon de rappeler qu'ils comptent alors qu'ils ne comptent pas au Conseil de sécurité, hein. Il y a toujours un peu cette rivalité qui est sous-jacente.
Le problème,
mais
c'est qu'on prend,
on négocie, on discute.
Pour prendre des décisions qui ne pèsent pas beaucoup, vous le disiez vous-même, tout à l'heure, vous
oui,
disiez les résolutions qui sont prises à l'Assemblée générale des Nations Unies ont très peu de poids.
Ce sont des résolutions qui n'ont pas un pouvoir normatif contraignant, mais ce sont des résolutions qui participent, je dirais, à la fabrique du commun, hein. C'est-à-dire le commun international, des notions comme la sécurité collective, la sécurité globale, la sécurité humaine, ou d'autres choses concernant l'environnement ont été, ou les droits humains, hein, la promotion des droits humains. Toute la promotion des droits humains a été faite par des conventions internationales adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies. Tout le droit humanitaire vient de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, il n'est pas exact ce sont des textes qui n'ont pas de portée contraignante, mais pour autant, ce sont des textes qui ont une influence, qui façonnent tout de même ce que j'appelle le commun international, hein, les grandes références communes. Alors après, on pourra en parler, ces grandes références communes, quelle est leur effectivité? Ça, c'est une autre affaire. Et c'est une autre affaire qui me paraît être aujourd'hui le défi majeur de la gouvernance mondiale et de la coopération multilatérale.
Pierre Grosserre, avant d'aborder la question de la réforme possible ou pas possible, justement, de ces entités.
Alors, je pense que, comme ça a été dit, il y a avec un certain nombre de mots qui maintenant sont rentrées dans le vocabulaire, hein, sécurité humaine ou développement durable, ce type de vocabulaire. C'est une vraie bataille de vocabulaire aux Nations Unies. C'est-à-dire, il y a des coalitions qui se créent pour faire monter à la fois des thèmes, mais la manière dont on définit ces termes, quel est le vocabulaire que l'on va utiliser. Même sur les questions des femmes, dont on parlera, je crois, tout à l'heure, il faut faire très attention à tout le vocabulaire qui monte. Il y a un exemple qui est assez intéressant, où la France a essayé de faire monter un vocabulaire qui était issu du PNUD, donc programme des Nations Unies pour le développement, qui s'appelait les biens publics mondiaux. Mmh. Bon. Ça a été une des grandes affaires des années 2000. On a fait des alliances avec les Suédois, les Mexicains, etc. Ça a fait flop, les Américains n'en voulaient pas, etc. Donc vous voyez, il y a quelques mots. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est que les Chinois sont en train d'essayer de faire rentrer une partie de leur vocabulaire officiel, Xi Jinping, etc. Et donc, dans les négociations, les Occidentaux, au contraire, font très attention pour qu'il n'y ait pas ce vocabulaire chinois sur l'avenir commun ou des choses de ce genre. Je prends un exemple encore. Il y a eu des grandes négociations qui ont lieu à Vienne. Est-ce qu'il fallait une convention? Est-ce qu'il fallait un accord? Est-ce qu'il fallait traiter sur quelque chose? Sur la question de la diffamation des religions, qui était poussée par un certain nombre de pays musulmans. Eh bien, ça a été un bras de fer absolument terrible. Vous voyez, c'est une affaire où le vocabulaire derrière, quand on tire le fil, évidemment, il y a énormément d'éléments derrière. Mais c'est pour ça que ces batailles normatives ont des conséquences considérables sur la manière dont on définit les problèmes. Et quand on définit des problèmes, après, vous avez des programmes, vous avez des financements de programmes, etc., etc. Et donc, ça a des conséquences majeures.
On va écouter Donald Trump l'année dernière, justement, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ensuite, on se retrouve, Guillaume Devin.
Si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays. Si vous voulez la démocratie, maintenez votre souveraineté. Et si vous voulez la paix, aimez votre nation. Les chefs d'État sages placent le bien-être de leur peuple avant toute chose. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes.
Voilà, il y a donc chez le président Trump clairement cette conviction que faire du multilatéralisme, c'est lâcher un peu de sa souveraineté. Pierre Grosser évoquait la question de la Chine, Guillaume Devin. Est-ce qu'il faut acter le fait qu'aujourd'hui, eh bien, la Chine est en train de prendre la place des États-Unis et est en train de façonner peut-être le multilatéralisme tel qu'on le connaît depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un multilatéralisme à l'américaine, et qu'elle est en train d'essayer, en tout cas, de créer un nouveau multilatéralisme qui serait un multilatéralisme à la chinoise. Et est-ce que c'est quelque chose qui déjà prend forme, justement, notamment dans l'Assemblée générale des Nations Unies, Guillaume Devin?
Je peux répondre à deux petites questions avant.
Bien sûr, vous avez tout le droit d'être totalement libre.
À Monsieur Trump, tout de même.
Je vous en prie.
On devrait lui donner Jaurès à lire, parce qu'il n'y a pas de contradiction entre la coopération internationale et le patriotisme. Donc, cette opposition-là est une opposition vicieuse hein, et perverse d'un esprit quand même très limité. Hein. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas confondre résolution et traité. Quand j'ai dit que les résolutions avaient une portée normative non contraignante, ces résolutions peuvent être à l'origine d'une grande convention internationale qui va produire des traités. Et après, les traités, s'ils sont signés et ratifiés, ont une portée normative. Donc l'Assemblée générale joue un rôle très important. Troisièmement, pour revenir à votre question sur le rôle de la Chine, oui, évidemment, la Chine contribuait à 2 ou 3% du budget des Nations Unies il y a 20 ans. Aujourd'hui, la Chine est le deuxième contributeur avec 12% du budget des Nations Unies. Cela résume hein, la montée en puissance de la Chine. La Chine était très réservée au Conseil de sécurité. Hein. C'était une politique un peu d'indifférence, comme on disait, en ne prenant pas position. Ce n'est plus le cas. La Chine est souvent très proactive, aussi bien dans certaines commissions de l'Assemblée générale qu'au Conseil de sécurité. Donc il y a évidemment, vis-à-vis du retrait des États-Unis et de la position, je dirais, de blocage un peu systématique des Russes, il y a une marge de manœuvre, et cette marge de manœuvre, la Chine essaye de l'utiliser en présentant aussi une image très valorisante, investissement fort dans les opérations de paix, etc. Mais par ailleurs, en essayant de capturer un certain nombre d'institutions qui sont des institutions jugées parasites ou nuisibles, comme par exemple le Conseil des droits de l'homme.
Pierre Grosser, sur ce point.
Oui, je crois que depuis 2011-2012, il y a une vraie offensive de la Chine qui ne se contente pas finalement de devenir un bon élève de ces organisations internationales, parce qu'elle a signé énormément de traités qu'elle n'avait pas signés auparavant et ratifié un certain nombre de traités, notamment sur les droits de l'homme. Évidemment, l'évolution maintenant, c'est que, elle occupe effectivement un certain nombre de postes. Hein, on a vu des combats pour la FAO, pour la question d'alimentation, là où elle a perdu sur les droits de propriété, alors bien sûr pour le droit de propriété intellectuelle, parce que c'est évidemment un enjeu considérable, un Chinois à la tête sur la propriété intellectuelle. Donc, il y a cela. Mais ça veut dire, ces votes, par exemple, pour avoir des postes, parce que la question des postes est fondamentale quand même aux Nations Unies, comme celle du vocabulaire. Que finalement, on rentre aussi dans des négociations compliquées avec un certain nombre d'États. Aujourd'hui, le réseau diplomatique chinois est aussi important que le réseau diplomatique américain. Ce qui veut dire que tous les pays sont dans le viseur de la Chine pour avoir des votes aux Nations Unies. Si la France garde son immense réseau diplomatique, c'est parce qu'elle est au Conseil de sécurité des Nations Unies et que les Nations Unies sont importantes. Et moi, cette idée de l'Assemblée générale, démocratique, sympathique, etc. Moi, j'ai quand même mal de doutes. C'est-à-dire qu'aussi, on vend ses voix. Il faut être honnête. Hein. Donc, il y a quand même des marchandages qui sont extrêmement compliqués. Vous avez aussi des rivalités très, très fortes à l'intérieur entre les pays du Sud, entre groupes de pays du Sud. Et donc, il y a aujourd'hui des batailles permanente, notamment dans ces votes, où que ce soit les Américains, que ce soit les Chinois, que ce soit les Français, d'autres, on surveille si la personne qui avait dit « je voterai pour vous, votre candidat », il le fait bien. On sait, il y a des choses qui ont été faites en sciences politiques extrêmement intéressantes pour voir si, quand vous êtes élu non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, ou quand vous avez voté des résolutions importantes pour les Américains, tout d'un coup, là, vous avez un prêt de la Banque mondiale où le FMI allège un tout petit peu les programmes qu'elle met en place. Donc, vous voyez, vous avez
c'est aussi un lieu de deal permanent.
En c'est fait. Un lieu de deal permanent, comme la diplomatie est un lieu de deal permanent. Je crois qu'il faut aussi éviter une espèce de romantisme en disant le conseiller de sécurité, c'est la hiérarchie, les grandes puissances, les méchants. Et si c'était plus démocratique, ça fonctionnerait plus. Ça fonctionnerait mieux. C'est pas le cas. Et un certain nombre aussi de ces organisations internationales, quand vous avez des gens du Sud qui sont au sommet, qui ont des postes importants, ils agissent pas tellement mieux et parfois aussi dans l'intérêt de leur pays ou leur intérêt personnel, comme des gens du Nord.
Guillaume Devin, les réagir.
Évidemment que les enceintes multilatérales sont des enceintes d'intenses négociations. Et d'ailleurs, il n'y a pas de multilatéralisme sans constitution de coalition. Et ces coalitions, elles passent par le bilatéralisme et par les relations bilatérales. Donc là, on n'a rien découvert. Évidemment qu'au sein de l'Assemblée générale, on négocie ses voix. Mais il y a tout de même des votes de bloc. Et il y a tout de même, de la part d'un grand nombre d'États au sein de l'Assemblée générale, le sentiment qu'ils ne sont pas représentés correctement au sein du Conseil de sécurité, que le Conseil de sécurité n'arrive pas à se réformer pour être un organe vraiment représentatif, et que c'est donc au sein de l'Assemblée générale qu'il convient de faire passer un certain nombre d'idées et quelquefois pas mal de protestations en votant avec les pieds.
Si on pense, Guillaume Devin, à ce que pourraient devenir justement toutes ces entités, il y a certaines personnes qui appellent à la création d'une Assemblée parlementaire des Nations Unies. Donc avec une nouvelle chambre de représentation, peut-être même demain pouvoir justement élire les représentants de la dite chambre. Quand je dis élire, c'est nous citoyens. Hein, pas... l'avantage que pourrait avoir cette option-là, c'est qu'elle permettrait de ne pas toucher à celles qui existent déjà aujourd'hui. Peut-être qu'on va évoquer évoquer la question de la réforme, de l'impossible réforme et du Conseil et de l'Assemblée Générale, mais ça permettrait de créer une nouvelle entité et au fur et à mesure, on vient lui donner des prérogatives de plus en plus importantes. Est-ce que cette option-là, Guillaume Devin, vous paraît intéressante, souhaitable?
Tout ce qui va dans le sens de l'inclusion, d'une démocratie plus globale est intéressant et mérite réflexion. Mais ça ne me paraît pas très réaliste. Par contre, ce qui me paraît ça me paraît très compliqué à organiser. Ça me paraît très compliqué à être accepté par les États membres. Quand on voit la difficulté que les États membres ont déjà à ouvrir leurs délibérations à des acteurs qui ne sont pas des acteurs étatiques, on imagine bien que créer cette couronne supplémentaire risque d'être particulièrement difficile. Non, moi je pense que peut-être le moyen de donner un nouveau souffle au multilatéralisme et à l'Assemblée générale, ça serait de renforcer le poids de ce qu'on appelle, avec toutes les précautions d'usage, les sociétés civiles, c'est-à-dire les représentants d'un certain nombre d'intérêts collectifs qui devraient pouvoir être associés de plus en plus aux délibérations sur les grandes questions mondiales. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà commencé à exister dans pratiquement toutes les organisations internationales. L'Assemblée générale commence, il y a des formules même au niveau du Conseil de sécurité pour écouter des acteurs non étatiques. Bon, c'est un processus qui est en cours, c'est un processus qui est délicat parce que dans le monde des organisations non gouvernementales, il y a à boire et à manger, hein. Il y a aussi des organisations qui sont complètement manipulées par les États. Donc il faut faire très attention, mais c'est sûr que la mobilisation des sociétés civiles, comme on le voit partout dans l'actualité aujourd'hui, de la Libye à la Biélorussie, ces mobilisations de sociétés civiles, peut-être des formes d'espoir.
Vous parliez d'acceptation tout à l'heure, je me demande ce qu'un Xi Jinping ou un Vladimir Poutine penseraient de tout cela.
Très difficile, le processus ne peut être que très lent et ça sera très compliqué.
Pierre Grosser, sur cette idée d'une assemblée parlementaire des Nations Unies.
Alors, je vais répondre tout de suite juste sur la question de ces sociétés civiles. Moi, j'ai aussi un certain nombre de doutes sur, c'est pas ceux qui sont le plus militants ou ceux qui se présentent comme l'avant-garde pour le bien commun, qui forcément s'autoproclament représentants du bien commun, qui forcément le sont, sans compter ceux qui représentent des intérêts particuliers, ce qui est toujours très compliqué. Ce qui est évident, c'est que du côté chinois, effectivement, notamment dans tout le système droits de l'homme dont on a parlé tout à l'heure, avec le comité des droits de l'homme notamment, les Chinois font tout aujourd'hui pour que les négociations soient des négociations entre États et ONU et que les sociétés civiles, ou en tout cas toutes les associations de droits de l'homme diverses et variées, soient écartées. Alors qu'elles sont présentes, elles poussent, etc. Donc de ce côté-là, je ne suis pas super optimiste. Ça, c'est la première chose. Après, sur la question de l'Assemblée parlementaire, c'est une question assez ancienne qui est relancée depuis une quinzaine d'années. Le Parlement européen est assez actif sur cela. Deux remarques. La première, ce dont on ne parle pas toujours aussi, c'est la question de la représentativité. C'est-à-dire qu'on a deux énormes pays qui font 1,3 milliard d'habitants. Donc si on fait quelque chose de totalement démocratique, ça veut dire que la Chine et l'Inde devraient avoir un poids absolument considérable et que les tout petits États risquent d'être encore plus noyés. C'est tout le problème qu'on voit avec les deux chambres aux États-Unis, le Sénat et la Chambre des représentants qui ont des modes de désignation qui sont différents. Et la deuxième interrogation que j'ai là-dessus, encore une fois, dans le fond, moi évidemment je trouverais ça très très bien, c'est qu'on voit déjà par exemple pour les élections au Parlement européen que les gens ont du mal à se mobiliser. Donc à l'échelle mondiale, avec quelqu'un qui habite, qui a une langue très éloignée, qu'on n'a jamais vu, etc., ça pose un certain nombre de problèmes. Et deuxième chose, il y a aujourd'hui quand même une désaffection à l'égard des élections, une désaffection à l'égard des partis politiques. Donc est-ce qu'il faut des partis politiques mondiaux? Déjà, partis politiques européens, on a eu du mal. Donc des partis politiques mondiaux, j'ai du mal à imaginer...
Oui, même nationaux, on a du mal. Hein.
Et même nationaux, je suis tout à fait d'accord avec vous, on a du mal. Donc, si vous voulez, les implications dans un temps où on a plutôt des interrogations sur la démocratie, si vous voulez, dans les années 90, c'était quelque chose où on avait l'impression d'une vivacité démocratique partout, les partis politiques commençaient à décliner, mais on pensait que ça avait encore leur utilité. C'est, je pense, une des vraies interrogations pour passer à ce cap-là.
Guillaume Devin, quand on réfléchit à ce qu'on pourrait changer dans ce système de gouvernance mondiale, finalement, on arrive souvent à la conclusion que tout cela est difficilement réalisable, que tout cela n'est pas réaliste. Souhaitable, vous l'avez dit, et l'un et l'autre, mais en réalité, pas tellement réaliste. On est condamné à cela, c'est-à-dire que on va encore à la fin du XXe siècle, quand je vous inviterai pour début septembre faire cette émission, on dira encore, mais en fait, on n'a pas mieux, on n'a pas trouvé mieux, on n'arrive pas à réformer, donc c'est toujours mieux que rien.
Je vous répondrai la même chose, c'est-à-dire que les choses avancent quand même, et que, bon, on n'a pas le temps ici d'en parler, mais si jamais on prend secteur par secteur, on s'aperçoit que quand même depuis 50 ans, il y a beaucoup de choses qui ont progressé, la coopération, le monde n'a jamais été aussi coopératif, même si on entend beaucoup de bruit de bottes en ouvrant les journaux, et donc je vous dirais que les choses ont pas mal progressé. Mais aujourd'hui, et depuis quelques années, on est face à un défi dont je parlais tout à l'heure, un défi qui est celui de la contradiction entre les discours et les actes. Ce que Ami Dahan et ses collègues qui travaillent sur la gouvernance climatique appellent le schisme de réalité. Cette espèce de distorsion entre le pacte global de la mondialisation et la façon dont on traite les migrants en Méditerranée. Et ça me paraît être aujourd'hui le défi majeur. Moi, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Yankelevitch, qui écrivait, je crois, quelque part dans l'esprit de la résistance, « N'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font ». Je pense que c'est valable en bien des choses, mais ça devrait être le principe cardinal de la gouvernance mondiale dans les années à venir.
Pierre Grandsert, encore un mot avant de parler de la question des femmes.
Oui, alors, si vous voulez, je pense qu'il est un problème majeur qu'on avait identifié dès les années 90, c'est que on a passé un cap. Si vous voulez, avant, les organisations internationales de type Nations Unies, on pensait que c'était effectivement lié à la guerre et à la paix, uniquement à cela. Or, l'agenda a grossi depuis très longtemps sur les questions de développement, les questions de droits de l'homme, les questions environnementales, la biodiversité, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, les problèmes s'expandent des problèmes que l'on peut donner à des diplomates ou à des chefs d'État qui vont faire de l'extérieur, de la politique extérieure par rapport à ce qu'il y a de l'intérieur. C'est que toutes les négociations sur ces questions, quand elles sont liées à l'économie, quand elles sont liées aux technologies, quand elles sont liées à l'environnement, etc., sont en fait des questions internes. Et donc, d'arriver à coopérer quand on n'a pas toujours les mêmes préférences collectives, quand il y a des enjeux internes avec des groupes de pression internes, etc., ça devient extrêmement, extrêmement compliqué parce que la frontière entre l'interne et l'externe s'est complètement brouillée, n'existe plus sur la plupart des grands sujets. On le voit, par exemple, sur la Covid. Dernière petite remarque, c'est que finalement, on avait fait en 45, parce qu'il y avait une guerre, on a remis les choses à plat. Au lendemain de la guerre froide, on a repris les institutions de 45, on n'a pas remis les choses à plat. Est-ce qu'on aurait dû? C'est une question qu'on continue à se poser. La question, si cette crise, la Covid, devient quelque chose d'absolument considérable qui pose tout un tas de problèmes, est-ce que ça ne vaudra pas la peine de remettre tout à plat et enfin fonder quelque chose qui soit adapté au XXIe siècle et pas à 1945?
Alors justement, c'est un peu lié à ce que vous venez d'évoquer, à ce dont on va parler maintenant. On va regarder comment ça avance du côté de la question des femmes, parce que 2020 devait être un moment important pour aborder les thématiques d'inégalité de genre au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, puisqu'elle est marquée par plusieurs anniversaires. Le 25e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Il y a les 20 ans de la résolution du 1325, la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité. Et puis le 10e anniversaire de la déclaration d'ONU Femmes. Sauf qu'il y a la Covid qui est passée par là. Alors est-ce que justement ces sujets-là vont pas être un peu mis à la marge, voire carrément disqualifiés? On en parle tout de suite avec Marie Séjec, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Lille. Elle est au micro de Bertille Bourdon.
C'est vrai que la pandémie a eu des conséquences sur la monopolisation de l'attention internationale. Elle a aussi eu des conséquences très concrètes sur le travail des institutions onusiennes en écourtant ou en reportant certaines sessions, donc sur les enjeux d'égalité des sexes. Toutefois, je dirais que c'est pas certain en fait que ces questions soient mises sous silence. Au contraire, on le voit en France, mais également dans le monde, on a une attention plus accrue du fait de cette pandémie aux inégalités structurelles de genre. Je dirais également sur les conditions de travail des femmes, qui sont souvent en première ligne face à l'épidémie. et même une attention sur les violences domestiques qu'elles ont pu subir dans les pays où elles étaient confinées. Et ça, pas seulement les femmes venant des pays du Sud, également des pays du Nord. Donc je dirais que c'est une prise de conscience assez importante à voir ce que ça donne dans les mois, voire les années à venir.
Pourquoi est-ce que la célébration d'anniversaire, que ce soit celui de résolution ou de la mise en place de programmes spécifiques, est un moment important dans l'agenda de l'Assemblée générale de l'ONU ?
Alors, pour plusieurs raisons, je dirais. La première, c'est qu'il rappelle l'importance de certains enjeux. Ici, hein, la lutte contre les inégalités de genre, la lutte contre les violences sexuelles, notamment dans les conflits armés, et la promotion des droits des femmes. Ces anniversaires, ils constituent également des opportunités, je dirais, pour renouveler les engagements politiques à ce sujet, pour renforcer les mesures et parfois même aussi pour augmenter les ressources qui sont dédiées à ces enjeux. Et enfin, quelque chose d'important, ils incitent les institutions qui sont liées à l'Assemblée générale à faire le bilan des actions qui sont menées. Qu'est-ce qui se passe depuis les 25 ans de Beijing, depuis les 20 ans de la résolution 1325 ou encore depuis les 10 ans de la création de l'ONU Femmes. Et je dirais même pour certaines institutions dont l'ONU Femmes, c'est le moment de montrer qu'on existe et de rappeler qu'on a pris, des mesures, des actions concrètes dans le domaine de l'autonomisation des femmes.
Et depuis la fusion entre différentes agences et qui ont abouti à la création en 2010 d'ONU Femmes, justement, le travail des femmes est un des sujets principaux de cette agence onusienne sur le terrain. Et vous, Marie Cégé, vous avez étudié le travail d'ONU Femmes au Burundi entre 1993 et 2015, dans la période de transition post-conflit. Quels étaient sur place, sur le terrain, les champs d'action et quel bilan est-ce qu'on peut en tirer 10 ans après la création d'ONU Femmes ?
Au Burundi, l'agence elle est présente depuis le milieu des années 90, donc c'était l'UNIFEM à l'époque, hein, et pas l'ONU Femmes, et elle avait des moyens très limités notamment en comparaison du programme des Nations Unies pour le développement. Elle va développer du coup des programmes qui visent davantage à soutenir les actions déjà existantes qui sont menées à l'époque dans un contexte de guerre civile qui commence en 93 par les mouvements et des organisations de femmes. L'agence elle va mettre en place des formations sur le genre, en compétences pour augmenter les compétences en termes de leadership des femmes de l'élite. Elle va également soutenir la participation d'une délégation de femmes aux négociations de paix qui se tiennent à Arusha entre 1998 et 2000. De par le soutien de ces dynamiques sociétales, locales, elle va acquérir une certaine réputation au Burundi, mais également dans le monde en termes de soutien, je disais, des thématiques femmes, paix et sécurité. Et c'est à partir de la décennie 2000 au Burundi qu'elle va diversifier ses interventions, plus seulement donc dans le domaine de la construction de la paix, mais également en soutenant des projets qui visent à renforcer les capacités économiques des femmes, par exemple avec la création d'activités génératrices de revenus, comme on les appelle, ou en apportant un appui à des groupes de femmes et dans leur demande de microcrédit. Elle a également diversifié ses activités en appuyant à la fin des années 2000, début des années 2010, les politiques étatiques de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est une question centrale hein, de l'agenda des droits des femmes au Burundi, mais aussi dans le monde. Et actuellement, du fait de la crise de 2015, elle a recentré ses activités autour d'un programme de formation de femmes médiatrices, donc qui agissent au niveau local dans la résolution des conflits.
Et est-ce qu'on peut chiffrer, ou est-ce qu'on peut, on a des instruments pour mesurer la portée de ces actions ?
Alors c'est tout l'enjeu des rapports qui sont publiés par l'agence depuis en fait 2010, hein, qui visent à faire le bilan de ces actions. Ces rapports qui sont conjugués à d'autres rapports du secrétaire général des Nations Unies, qui mettent en place des indicateurs visant donc à mesurer. Après, toute la question, c'est quels sont ces indicateurs ? Est-ce que la présence de femmes, par exemple, dans le maintien de la paix suffit-elle à prouver qu'en fait des politiques sont mises en place et qu'elles sont efficaces ? C'est tout l'enjeu. Il ne suffit pas de mettre des femmes pour que l'égalité des sexes soit défendue. Donc vraiment, je dirais que la question, c'est ces indicateurs, comment on les mesure et qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Pour finir, Marie Séger, tournons-nous vers les résistances à l'adoption de résolutions en faveur de la lutte contre les inégalités de genre. On se souvient qu'en 2019, Donald Trump rejetait une partie d'une résolution qui visait à approfondir la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Il la refusait parce qu'elle faisait mention des droits sexuels et reproductifs. Cela représentait pour lui une promotion de l'avortement. Lors des discussions, les États-Unis soutenaient que ce débat devait se tenir à l'Assemblée générale de l'ONU et non au Conseil de sécurité. Est-ce que la question a en effet été renvoyée auprès de l'Assemblée générale pour tenter de trouver une solution ?
En fait, on a eu un projet de résolution qui est mis en avant suite à l'appel lancé par Denis Mukwege et Nadia Mourad, donc les lauréats du prix Nobel de la paix, pour que le Conseil de sécurité, donc qui est saisi sur cet enjeu, femmes, paix et sécurité, pour qu'il s'engage à prendre des mesures pour les survivantes et survivants de violences sexuelles. Des mesures qui peuvent être un petit peu épineuses pour la Russie, la Chine, les États-Unis, sur les questions de viol, sur la question de mécanismes de réparation, et comme vous l'avez rappelé, sur la question des droits sexuels et reproductifs. Donc la résolution, elle a été adoptée, même si une partie du projet a été quand même amputée, donc sur certaines mesures. Cette question de la santé sexuelle et reproductive, ou plutôt les débats et les résistances dont elle fait l'objet, c'est pas nouveau, ça date vraiment, je dirais même de la première conférence mondiale pour la femme qui est mise en place en 75 à Mexico, puis à Beijing, la question de l'avortement qui refait l'objet de résistance, et également donc en 2019 avec cette résolution sur l'agenda femme, paix et sécurité. Alors effectivement, on a une tentative ou plutôt une déclaration pour dire il faudrait que c'était le représentant russe c'était pas Washington directement, mais qui disait il faudrait que ce soit l'Assemblée générale ou le Conseil des droits de l'homme qui s'empare de ces questions femme, paix et sécurité. Ça fait un peu doublon avec ce que fait l'Assemblée générale. Pourquoi nous disent-ils ça ? Parce que les résolutions du Conseil de sécurité peuvent être accompagnées de mécanismes de sanctions, si elles ne sont pas, appliquées. À la différence des résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui ont une portée plus déclarative, même si elles ont une portée normative importante.
Pourquoi Marie Séger qui est avec nous à l'instant, qui a participé à cet ouvrage collectif l'Assemblée Générale des Nations Unies que vous avez co-dirigé, Guillaume Devin. Merci beaucoup d'être venu. Il faut lire ce livre parce que c'est un moment important pour les Nations Unies, un moment où peut-être le monde est en train d'assister à une forme d'effondrement de notre multilatéralisme. Donc il faut veiller à tout cela. Un grand merci également à Pierre Grosser d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir éclairé sur cette gouvernance mondiale sur laquelle nous allons nous pencher toute la semaine. L'histoire du monde se fait en Asie, notamment. Il y avait énormément d'ouvrages de Pierre Grosser que vous avez signé. On mettra quelques références sur la page de Culture Monde. Merci à tous les deux. Dans quelques instants, on va retrouver Olivia Gesbert et La Grande Table. Mais avant cela, Brice Couturier, Le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Beaucoup de gens craignent le pire aux États-Unis, Brice, pour le mois de novembre.
Bah oui, parce que l'épidémie en cours a déjà causé la mort de plus de 200 000 personnes dans le pays. Et donc, de très nombreux bureaux de vote avaient déjà été fermés ces dernières années pour des raisons obscures, mais beaucoup d'autres l'ont été ces derniers mois, parce que la Covid-19 dissuade nombre d'assesseurs de surveiller le bon déroulement du scrutin. Et du coup, un nombre très inhabituel d'électeurs américains ont décidé de voter sans prendre le risque de se rendre au bureau de vote. Ils ne veulent pas avoir à faire la queue pour aller déposer leur bulletin dans l'urne. Ils voteront chez eux, par correspondance, comme la loi les y autorise. Or, les sondages montrent que ce sera le choix de la majorité des électeurs démocrates, mais de 20% seulement des électeurs républicains. On comprend pourquoi Trump est si hostile au vote par correspondance. Il sait que celui-ci ne lui sera pas favorable. Premier problème, les républicains, Donald Trump en tête, disent soupçonner les démocrates de chercher à truquer le scrutin. La seule manière pour nous de perdre cette élection, a déclaré publiquement le président en août, ce serait qu'elle ait été truquée. ça augure mal d'une succession élégante et paisible. Mais on voit poindre un deuxième problème, celui du temps que va prendre le décomptage des bulletins de vote. Un professeur de droit, Edward Foley, a relevé un phénomène électoral récurrent aux USA. Les résultats des comtés ruraux peu peuplés arrivent plus rapidement que ceux des grandes villes qui mettent davantage de temps à être dépouillés. Or, les premiers votent majoritairement républicains et les métropoles massivement démocrates. Du coup, les premiers résultats publiés sembleront favoriser les républicains, même dans des États où, in fine, ce sont les démocrates qui l'emporteront. C'est ce que Foley a baptisé « the blue shift », le revirement bleu qui attend Trump. Cela aggravera le contretemps relevé ce week-end par Peggy Noonan dans le Wall Street Journal. Chaque État ayant ses propres procédures de dépouillement des bulletins de vote par correspondance, la proclamation des résultats sera de fait étalée sur plusieurs jours. Et dans la mesure où, on l'a vu, les électeurs républicains auront été plus nombreux à s'être déplacés pour voter, il est donc assez probable qu'au matin du 4 novembre, Donald Trump se proclame réélu sur la base du seul décompte des bulletins déposés dans les urnes, en particulier dans les petites villes rurales, ce qu'on baptise à présent le mirage rouge, couleur du parti de M. Trump. Car ce mirage, il risque fort d'être dissipé quelques jours plus tard, une fois connus les résultats des votes par correspondance dans tous les États des USA. Alors, faudra-t-il envoyer des agents des services secrets pour le déloger de la Maison-Blanche le jour de l'investiture de Joe Biden? Eh bien, on l'envisage déjà.
Et oui, on l'envisage. Peut-on imaginer, Brice, que Donald Trump remette en cause le processus électoral dans l'hypothèse où Joe Biden obtiendrait une majorité de grands électeurs?
Entre le soir de l'élection et le jour de l'investiture s'ouvrira une zone de danger. C'est ce que vient d'écrire le politologue Larry Sabato. Des résultats à peine proclamés seront contestés. Il faudra recompter ici ou là. Internet, on le sait d'avance, fourmillera de rumeurs du genre « Un de mes cousins vivant dans l'Ohio a vu de ses yeux des milliers de bulletins de vote jetés dans le fleuve. En Floride, on a fait voter des gens morts depuis 4 ans, etc. etc. » On connaît Internet. Hein. Des deux côtés, relève The Economist, on a dramatisé à outrance l'enjeu du scrutin. Tant du côté de Trump que celui de Biden, cette élection est présentée comme un test existentiel pour les États-Unis. L'hypothèse d'une victoire de l'autre camp a pris des allures d'apocalypse. Dans l'ambiance actuelle, marquée par une polarisation politique démente, des haines raciales, des esprits surchauffés, des peurs mutuelles, beaucoup d'observateurs disent redouter des affrontements violents. Pour compliquer encore les choses, on apprend par le directeur du centre de contre-espionnage NCSC, William Evanina, que ses services s'attendent cette année à voir la Chine et l'Iran rejoindre la Russie dans un effort sans précédent d'intervenir dans les élections américaines. C'est ce qui a été confirmé par Marco Rubio, le président de la commission d'espionnage du Sénat. Des hackers russes ont testé récemment les vulnérabilités des systèmes informatiques de décompte des voix dans chacun des États des USA. On soupçonne moins une opération massive visant l'ensemble du processus électoral qu'une intervention discrète et ciblée visant un ou plusieurs swing states, ces fameux États qui peuvent faire basculer le résultat d'un côté ou de l'autre. Mais je reviendrai demain sur les méthodes employées parce que la revue Foreign Affairs vient en effet de publier un article très détaillé sur les méthodes employées pour aiguiser les tensions et provoquer le chaos dans nos démocraties. Parce que le moins que l'on puisse dire est que le spectacle qui risque d'être offert à l'occasion de ce scrutin par la plus puissante démocratie du monde ne sera pas à l'avantage de la forme de gouvernement que les Américains et nous autres Européens nous avons choisi et à laquelle nous tenons, le gouvernement du peuple par le peuple.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve donc demain pour un nouveau rendez-vous américain, cher Brice. Dans un instant, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table.